du thème, j'ai dit, mais en une heure de temps, comment on fait, quoi? Donc, premier point, est-ce que ça m'interpelle? Est-ce que ça me parle dans ma vie? Premier point. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois que je suis créée pour ressembler à Christ? Donc ça, je vous laisse répondre pour vous-même. Est-ce que je crois? Est-ce que les uns les autres, vous croyez, vous avez été créés pour ressembler à Jésus? Quand on se voit nous, on se dit, oulala, il y a du boulot. Mais si on croit la parole de Dieu, et pas nos sentiments, et pas tout ce qui vient graviter dans notre tête, cette affirmation, elle est dans la parole de Dieu. Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils. Donc soit je crois la parole de Dieu et je dis oui, je suis créée pour ressembler à Dieu, soit j'y crois pas, je ferme le bouquin et l'affaire est réglée. Premier point. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, ressembler à Christ? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? On va déjà voir ce que c'est pas. Ce que c'est pas ressembler à Christ. Ressembler à Christ, c'est jamais une contrainte. C'est jamais une obligation. Je vais pas le faire parce que c'est bien. Parce qu'on m'a dit que c'était bien, en plus dans la parole de Dieu, donc c'est bien, donc je vais le faire. Non. Quelques-uns d'entre nous vont aller porter des fleurs sur les tombes. Ça va être la Toussaint. Est-ce que je le fais parce que c'est bien? L'instant d'après, je râle, parce que de toute façon, ils vont geler, il va faire froid. Ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie d'honorer ceux qui nous ont quittés? Et c'est tout à fait respectable. À la maison, au boulot, dans l'église, est-ce que je fais les choses parce que c'est bien de le faire? Je fais mon devoir, mais j'y prends pas de plaisir. Il y a une autre façon de faire les choses. Qu'est-ce que ça peut être ressembler à Christ? Je fais les choses parce que c'est bon et pas parce que c'est bien. Parce que c'est bon à l'intérieur de moi-même. Parce que je veux plaire à celui que j'aime. Ça change tout. Je fais exactement les mêmes choses. Je vais bosser tous les jours, je m'occupe de ma famille tous les jours, je bosse dans mon église, mais je fais les choses avec mon cœur, parce que j'ai envie de lui ressembler. C'est pas du tout pareil. Ça résonne pas pareil à l'intérieur de notre cœur, et le résultat, pour votre croissance, sera pas pareil non plus. Je peux pas grandir avec des obligations. Vous savez, les obligations, c'est des choses qu'on ajoute. Quand vous ajoutez du poids, on a un peu tendance à se tasser. Donc pour grandir, quand on se tasse, c'est dur. Si je fais les choses avec amour, le Seigneur va porter ce qui est lourd. Et des fois, la sauce est lourd. Des fois, c'est lourd parce que ça a du mal à démarrer, etc. C'est lourd. Et je dis, Seigneur, tu portes. Seigneur, tu portes. Tu as des projets. On va le voir, des projets de paix. Seigneur, tu portes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Sinon, j'ai envie de dire surtout, faites rien. Faites rien. Si vous y mettez pas votre cœur, faites rien. C'est pas la peine. Vous allez vous faire du mal. Vous allez pas grandir. Ça va avancer à rien. Voilà pour ce qui est du faire. Mais ça va beaucoup plus loin. Et je me suis dit, vu l'ampleur du truc, en une heure, ouh. Enfin, sinon, on revient la semaine prochaine. Souvenez-vous. Jésus, quand il lave les pieds de ses disciples, dans Jean 13, verset 16, il dit « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, l'apôtre plus grand que celui qui l'envoie. Si je lave les pieds, faites pareil. » Et dans Jean 15, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » Essaye de pas avoir la mémoire trop oublieuse, cet an dernier on l'a dit, il faut repasser dans notre cœur ce que le Seigneur y met. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et là il ajoute, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. On n'a pas trop envie quand même, hein, C'est pas facile. C'est pas un chemin facile. Ça promet d'être périlleux. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le bouquin Rick Warren là ? Ici, c'est la terre. Voyez ? Ici, la terre. Vous n'êtes pas encore au ciel. Pensez pas que tout va être rose. Sinon, ça c'est de l'évangile guimauve. On vient pour avoir et pas pour donner. Vous êtes sur la terre, pas au ciel, pas encore. Il y a un vieux chant qui disait « Tel que je suis, je viens à toi. Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » Et il y a un moment où ça dit « Lutte au dehors, crainte au dedans. » Lutte au dehors, crainte au dedans. On dit « Mais non, jamais la paix. » Si, si, on peut avoir la paix. On peut avoir la paix quand même parce que Jésus va nous la donner. La vie, notre vie, c'est parfois ça. C'est des luttes au dehors. On dit « Mais Seigneur, quand est-ce que ça va finir ? » Ça vous est jamais arrivé ? Moi si, honnêtement. Quand est-ce que ça va finir ? Crainte au dedans, parce que je ne vais pas tenir. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour nous façonner ? Vaste débat. Un point important à cibler, c'est que la croissance est un signe de bonne santé. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui reste bébé pendant 20 ans ? Dans certaines pathologies, ça existe. C'est des petits malheureux qui sont en souffrance. On ne sait pas pourquoi, hein, mais ils sont en souffrance. Et ils le restent. On a de la chance de grandir. On a la chance de voir nos enfants grandir. Et spirituellement, c'est pareil. C'est pas normal de rester un enfant spirituel. C'est pas normal, c'est pathologique. Éphésiens 4, verset 15 nous dit « Croissez à tous égards en celui qui est le chef, Christ, grandissez en Jésus. » Colossiens 1, verset 15, donc je vous donnerai, si vous voulez les références, on vous fera un tirage papier. Hein. Colossiens 1, verset 15, « Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image de Dieu et il veut qu'on ressemble à cette image. Et il est le premier-né, ça veut dire qu'il y en aura d'autres derrière. » Est-ce qu'il a été épargné durant toute sa vie ? On l'a vu tout à l'heure pendant la louange. On lui a rien laissé passer. On a même été jusqu'à l'injustice la plus noire. Franchement, c'était pas juste ce qu'on lui faisait vivre. C'était pas juste du tout. Il s'agit bien d'un processus de maturation. On va pas y arriver en un jour. On va avancer un pas à la fois. Est-ce que Jésus vivait en ermite, reclus ? Jésus se tenait à distance quelquefois pour se ressourcer dans les déserts, mais il ne vivait pas en ermite. Ça a pris 30 ans de sa vie où il a été en communion avec son Père. 30 ans de sa vie pour 3 ans et demi de ministère, c'est pas rien. Il a été en butte à la jalousie dans sa propre famille. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Ça devait pas être si facile. Il était, à l'époque, c'était important d'être le premier-né, hein. Il remplaçait son père. Il était responsable. Et il était en butte à toutes ces tensions-là. Il a pas été épargné. Pas une journée. Pas une journée. Donc, ça va prendre du temps. Il est resté au milieu de tous ces gens qui étaient tout le temps à le critiquer, hein. Mais ça veut dire aussi que dans notre vie, on n'est pas censé vivre les choses tout seul. Même si c'est dur. Même si la communion fraternelle, il y a des jours où c'est merveilleux et on a beaucoup de chance d'avoir vraiment entre nous un amour sincère, d'avancer malgré nos difficultés. Mais il y a des jours, c'est dur. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a des jours, c'est dur. Des jours, on comprend rien. Pourquoi il nous est tombé autant de trucs dans l'église, coup après coup, boum, 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 des volées de bois vert, ça s'appelle. Il y a des moments, c'est dur. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible ? Romains 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Prise de position, tout de suite. Soit je dis « c'est bon, je crois ce que la parole de Dieu dit. » Soit je dis oui, mais attends, ça c'est compliqué, puis là j'ai pas vu la main de Dieu. On entend des trucs comme ça. Je ne vois pas la main de Dieu. D'accord? Toute chose, pas quelques petites choses, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon mari m'a quitté il y a quelques années en me laissant avec deux gamins en bas âge, pas élevés du tout. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'étais malade. J'avais reconstruit ma vie avec un homme merveilleux qui est là dans le coin, qui se fait tout petit là. Et on avait une merveilleuse petite pupusse de 6 mois. Paf ! Cancer. Paf ! Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas facile de dire ça dans ces moments-là. J'ai dit, Seigneur, je comprends rien. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si tu vas me laisser du temps pour élever les enfants, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Alors après, il y a ce qu'on fait. On sait ces choses-là. On a envie de les communiquer. Je connaissais ce verset. Je l'avais vécu dans ma vie. Et j'avais, il y a quelques années de ça, fait des nuits avec une aide-soignante que je connaissais de quelques années avant. Je savais que sa vie, ça avait été un chaos pas possible, un truc. Elle avait vécu la pire des misères. L'inceste étant enfant, mariage, divorce, violence conjugale, j'en passais d'autres. Elle arrivait abîmée, elle était toujours tombée dans les escaliers. Elle était toujours tombée dans les escaliers, elle devait avoir de très mauvais escaliers, cette pauvre fille. Et une nuit, on a fait la nuit ensemble. Et le Seigneur m'a poussée à lui parler. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit Romains 8:28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Et je lui ai parlé du Jésus qu'on voit dans Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle me dit, mais j'ai jamais entendu un truc pareil. J'ai jamais entendu un truc pareil. Elle dit, tu peux pas, ça me fait tout drôle. Alors j'étais contente, je me suis dit, ça va parler à son cœur. Il n'a pas passé, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, j'apprenais le décès de cette fille, que j'ai jamais revue. Corinne est morte d'une embolie, dans son lit. Comme ça. Elle a entendu une fois dans sa vie parler de la parole de Dieu. Une fois. Et moi j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que je pouvais lui dire un truc pareil? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que j'étais autorisée à lui dire, j'ai des projets de paix pour toi, pour ta vie? Est-ce que j'avais le droit de lui dire un truc pareil? Et je peux vous dire, ça m'a pris du temps avant de resservir ce verset-là. Hein, parce que ça me posait question. Ça me posait question. Elle avait des enfants petits dont elle m'avait parlé, elle m'avait montré les photos. Ça me posait problème. Mais pourtant, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Donc ça ne peut être que vrai. Ça a été le chemin pour Corinne. Une fois dans sa vie, entendre parler de ce qu'il y a dans l'Évangile. Une fois dans sa vie, entendre parler d'un Dieu merveilleux. Mais ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'elle avait fait un chemin de pardon. Jusqu'à, puisqu'on est aux alentours de la Toussaint, s'occuper de l'enterrement de son père et mettre un monument correct sur la tombe de son père. Si ça, c'est pas du pardon, faut me dire comment ça s'appelle. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les plus atroces dans une vie. Et c'est pas facile à digérer. Moi, ça m'a pris du temps. J'ai vraiment demandé au Seigneur, mais tu crois que j'ai bien fait de dire ça? On ne comprend pas toujours la portée de la parole de Dieu. Elle va bien au-delà de ce que je vais vous dire ce matin. Elle est bien plus puissante que les quelques mots que je vais vous dire ce matin. C'est la parole de Dieu. C'est pas un discours. La parole de Dieu, c'est pas quelque chose de religieux, c'est pas quelque chose de philosophique, c'est pas de la religion, nous dit Rick Warren. C'est de la relation. C'est pas de la religion, c'est de la relation. C'est complètement autre chose. Est-ce que Dieu souhaitait la souffrance de Corinne? Sûrement pas. Sûrement pas. Est-ce qu'il souhaite la misère des hommes dans notre monde? Pas plus. On n'a pas un Dieu tortionnaire. On n'a pas un Dieu sadique, c'est pas vrai. Mais par contre, il va utiliser tout, tout. Toutes les composantes de notre vie, même les pires, même les plus inavouables, il va les utiliser pour nous ramener vers lui, parce qu'il a un cœur de père, il a un cœur d'amour. C'est complètement fou. Aux yeux des hommes, ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Et la folie de Dieu est plus forte que les hommes. Vous avez tous dans votre vie des blessures, infligées par les hommes, infligées par la vie. Il y a la maladie, il y a les gens qui nous quittent trop vite. Mon père m'a quitté bien trop vite, on venait de renouer le contact. Mon beau-père que j'adorais, il est parti bien trop vite. C'est comme ça. Le Seigneur nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 5, versets 3 à 4 nous dit, l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Attention à l'interprétation qu'on fait des choses. On a toujours, c'est très, je dirais, très évangélique ce truc-là, on interprète tout. Ça part d'un bon sentiment, hein, mais méfiez-vous des bons sentiments. Cette semaine où je devais vraiment préparer cette petite exhortation, deux situations concernant la maladie. Une collègue chrétienne qui m'a confié qu'elle était très, très blessée par des paroles malheureuses qu'elle avait reçues. Pas de gens de sa famille, des chrétiens. Tu es toujours en dépression. T'es sûr qu'il n'y a pas un manque de pardon dans ta vie? Et une autre, la même semaine, qui vient faire des interventions à l'école, elle arrive avec son épaule cassée. Elle a 4 enfants. Certains d'entre nous la connaissent ici. Elle me dit, tu sais, Josette, j'ai eu les amis de Job au téléphone. C'est quelqu'un qui bosse et qui bosse et qui bosse pour les autres depuis 25 ans que je la connais. Elle bosse sans arrêt. Son mari, pareil. Et les réflexions qu'elle a eues des amis de Job, c'est « Le Seigneur, t'as pas obligé à freiner un peu ?» Elle a mal, hein. Elle a un clou dans l'épaule quand même, hein. Puis bon, c'est bien, tu sais pas demander d'aide. Sauf que les mêmes amis de Job, quand elle a demandé un coup de main pour les packs d'eau qui vont pas tout seuls du supermarché au coffre de la voiture et du coffre de la voiture à la cave, il n'y avait plus d'amis de Job. Où ils étaient passés, je vous le demande. Ça me pose question. Attention à pas faire trop vite les questions et les réponses. Vous n'êtes pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Attention. Une parole peut être bénissante, une parole peut être blessante. Attention à ne pas faire des interprétations dans la vie des autres. Les épreuves peuvent nous rapprocher de Dieu. Les épreuves peuvent nous éloigner de Dieu. Notre attitude de cœur, on a travaillé sur la communion fraternelle la semaine dernière, notre attitude de cœur face à des frères et sœurs qui souffrent, ça va les aider à grandir, puisqu'on grandit pas tout seul, on a besoin des autres. Hein. Ça va les aider à grandir, à se rapprocher de Dieu, ou ça va les éloigner. On est responsable et on le sera devant Dieu. Mais Seigneur, pourquoi des trucs pareils? Pourquoi elle a souffert pendant des heures avant qu'on la prenne en charge au bloc, avec son épaule bousillée? Pourquoi? Est-ce que vous n'avez jamais eu de pourquoi dans votre vie? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi la vie n'est pas simple? Pourquoi les relations entre les êtres humains, même les meilleurs soient-ils, n'est pas simple? Les gens, ils étaient bien intentionnés, hein, ils cherchaient à l'exhorter. Boing! C'est l'exhortation massue. Rick Warren nous dit, vous n'emporterez pas votre carrière, vous n'emporterez pas votre confort au ciel. Et vous vous rappelez de ce qu'on va emporter? Votre caractère. Le but de notre passage sur terre, c'est de grandir. C'est notre caractère. C'est devenir chrétien. Le but de notre passage sur terre, personne ne réagit, c'est curieux. Hein. Le but de notre passage sur terre, c'est devenir chrétien. Ça vous choque pas? Mais je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétienne, moi. J'ai été baptisée en 1973. Waouh! Je suis chrétienne. Chrétien, c'est comme Christ. Ça veut dire petit Christ. Est-ce que je suis toujours chrétienne? Ben moi, honnêtement, je vous réponds pas tous les jours. Pas tous les jours, parce qu'il y a des jours, il y a des choses qui m'énervent. Voilà. Est-ce que je suis toujours comme Christ? Donc la prochaine fois, quand vous direz « je suis chrétien », vous allez dire « est-ce que je suis vraiment chrétien ?» Comment je vais y arriver? Comment je vais y arriver? En comptant sur lui. En comptant sur lui. Si je compte sur mes forces, c'est pas la peine. J'y arriverai pas de cette façon-là. Je vais compter sur lui. Je vais pas être une pierre d'achoppement pour mes frères et sœurs. En tout cas, je vais essayer de pas l'être. Parce que quelquefois, on est d'une maladresse. C'est terrible. Je cherche pas à être maladroit, hein. Ça vient tout seul. On grandit plus facilement dans la maladresse que dans la dextérité, on va dire. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Comment je vais y arriver? Porter ensemble avec les autres, sans les juger, pour porter moins lourd. Est-ce que vous avez pensé que la communion, ça pouvait être ça aussi? Porter ensemble, quand on a des épreuves, des tribulations dans la vie, pour porter moins lourd. Voilà pour la tribulation. On pourrait dire beaucoup, beaucoup plus de choses encore. J'ai emmagasiné plein de références, c'est sûr. Personne ne sera épargné. La vie chrétienne, c'est pas semer de pétales de rose tous les jours. Si on vous présente cet évangile-là, sauvez-vous à toutes jambes. Parce que c'est pas l'évangile de Dieu. Parce que ce n'est pas l'image de Jésus. Quand on vous dit, t'es malade parce que, ben non. T'es malade, voilà. T'es malade parce que, oulala, non, non. Le Seigneur a le pouvoir de nous guérir. Il le fera si c'est quelque chose qui va te faire grandir dans la vie. C'est pas pareil. Portez ensemble maintenant, pour porter moins lourd. Donc Dieu a utilisé nos épreuves, nos souffrances, des choses qu'on ne comprend pas, et même au travers de ce qu'on a vécu, on ne comprend pas tout. Mais Dieu va construire quelque chose de ça, même s'il n'est pas l'initiateur de ce qui nous fait mal. D'accord? Dieu n'est pas l'initiateur de ce qui nous fait mal, mais il va en sortir le meilleur. Est-ce que vous croyez ça? C'est important, hein, parce que quelquefois on a une image très très faussée de ce que ça peut être. Si déjà on part sur cette base-là, il veut pas le mal, mais il va le transformer en bien. Toutes choses vont vraiment concourir au bien. Ça va pas dépendre des circonstances. Et deuxième point que Dieu va utiliser, c'est la tentation. La tentation. Personne n'est jamais tenté de se mettre en colère. Demandez à mon mari, vous allez voir. La tentation. Tu crois que l'autre n'est jamais tenté autour de toi? Tu crois que t'es le seul? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Tu crois que t'es le seul à plonger de temps en temps? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair, net, précis. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On le sait, mais on oublie. Puis on a tendance à idéaliser des gens qu'on trouve bien. Faites attention. D'abord, ça les met dans une position très inconfortable, qui n'est pas tenable, parce que c'est des êtres humains, donc c'est pas tenable. On porte un regard humain, on cherche un idéal, on idéalise l'autre. C'est une forme d'idolâtrie comme une autre. C'est une forme d'idolâtrie comme une autre. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la tentation? Ne pas rester focalisé dessus. Arrêtez de croire les mensonges de l'ennemi. peux pas m'en sortir, c'est pas vrai, de toute façon je suis comme ça, je changerai jamais. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Si tu penses ça, ça veut dire que tu penses que tu dois t'en sortir par toi-même. Où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Nulle part. Compte sur l'Éternel, car il a 1000 moyens de te délivrer. Et moi je dis sur les 1000, il va bien en prendre un. Sur les 1000, il va bien en prendre un. On n'a pas un Dieu tortionnaire, on n'a pas un Dieu sadique. Et quand on est tenté, c'est normal. La meilleure preuve de ça, c'est que Jésus a été tenté aussi. La différence, c'est que lui, il n'a pas plongé. Donc si tu es tenté, c'est normal. Si tu plonges, c'est que tu as compté sur tes forces. Au lieu de tout lui remettre. Si tu restes focalisé sur ce qui te titille, tu vas faire comme avec cette lampe laser là, tu vas donner de la puissance à la tentation. Donc c'est important. Sur quoi je vais concentrer mes pensées? Sur quoi je vais focaliser dans ma vie? Si je focalise sur l'amour de Dieu, si je focalise sur la parole de Dieu, si je focalise sur ce qu'est Jésus, ça va tout changer. Si je compte sur l'autre aussi, deux valent mieux qu'un. La Bible nous dit ça, hein. Ecclésiaste 4, verset 9, 10. Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Cherche un compagnon de route qui va t'épauler. Et toi, tu l'épauleras aussi un jour. Pas penser qu'il va y avoir un rapport d'autorité entre celui qui te donne un coup de main et toi. Non. C'est deux êtres humains. L'un avec l'autre. Deux êtres humains. Donc, si tu souffres de la tentation, reste pas focalisé dessus. Attention sur quoi tu es concentré. Vous rappelez, le livre des 40 jours vous dit sur quoi êtes-vous concentré? Tu choisis pas d'être tenté, mais tu peux choisir vers quoi tu vas porter ton attention. Tu peux pas penser, Rick Warren nous dit, tu peux pas penser en même temps à ce qui te titille et à la gloire de Dieu. Choisis. Choisis. C'est pas possible. Tu peux pas penser en même temps à Dieu et à ce qui te titille. La tentation, c'est quoi finalement? C'est un baromètre. C'est un baromètre qui va nous indiquer ce qui est le plus important dans notre vie. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui compte le plus dans notre vie? Ressembler à Jésus? Ou nous laisser embringuer dans tout un tas de bazar qui fait partie de notre personnalité, qui est comme ça et à laquelle on peut rien changer, et tatati et tatata, et ça revient en boucle, et ça revient en boucle, méfiez-vous, c'est le discours de notre ennemi juré à tous. Et Rick Warren nous parle beaucoup de Gethsémané, beaucoup, beaucoup de Gethsémané. Et il y a un passage dans un chant qui dit « Il dit à Dieu dans sa peine, ta volonté et non la mienne. » On l'a chanté tout à l'heure. Hein. « Il dit à Dieu dans sa peine, ta volonté et non la mienne. » Si je veux ressembler à Christ, est-ce que je suis capable de dire la même chose? Ta volonté, pas la mienne. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait interpellée, dont j'ai parlé à Jean-Luc, concernant Gethsémané. Il y a quelque temps de ça, le Seigneur m'a montré une image de Jésus à Gethsémané qui pleurait, qui suait des gruaux de sang. Et vous savez, de par mon métier, c'est pas très physiologique ce truc-là. Hein? Je me dis, comment on peut transpirer du sang? C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Aucun d'entre vous ne transpirera jamais du sang. On va transpirer de l'urée, un petit peu de plasma, mais certainement pas du sang total. Pourquoi Jésus transpire du sang total? Parce qu'il est le seul qui peut rien retenir, qui lâche tout, qui donne son sang, qui donne sa vie. La vie est dans le sang, vous vous rappelez? La vie est dans le sang. Et Jésus nous aimait tellement que même son sang, il pouvait pas le retenir. Moi, ça m'a énormément, énormément parlé. On est loin de ça. Mais Seigneur nous dit, c'est rien, c'est un chemin. C'est un chemin, ta vie. Tu chemines pour l'instant. Laisse du temps au temps. Tu vas avancer avec moi, tu vas me faire confiance. Tu seras jamais Dieu. Pense pas que tu vas ressembler à Christ pour être Dieu. Le livre nous le dit aussi. C'est pas ça que j'attends de toi. Ce que j'attends de toi, c'est la confiance. Tu me fais confiance. Tu me fais confiance dans tes épreuves, dans tout ce que tu comprends pas. Et il y en a des choses qu'on ne comprend pas. Tu me fais confiance quand t'es tenté, quand ça te fait mal. Tu focalises sur autre chose. Tu cherches de l'aide autour de toi. Tu crois à la communion fraternelle. Tu crois que c'est vrai que les gens t'aiment dans ton église. Tu crois que c'est vrai que ta souffrance a du prix pour eux. Tu crois que c'est vrai quand ils prient pour toi. Tu crois que c'est vrai que ça leur fait mal que ton couple est en déliquescence. Tu crois que c'est vrai que ça leur fait mal quand certains membres sont malades. Tu le crois. Parce que t'as autour de toi des frères et sœurs qui veulent aussi ressembler à Jésus. Et un peu à la fois, le Seigneur les transforme et leur donne ces espèces de petites poussières d'éternité qui sont des images de la ressemblance de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Et le dernier point que le Seigneur va utiliser dans notre vie, et pas des moindres, pour nous changer, pour nous faire grandir, pour nous transformer, c'est le pardon. Le pardon. Parce que tous, on est bien contents d'avoir le sien. Hein. Moi, personnellement, je suis très contente d'avoir son pardon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis très contente d'avoir son pardon. D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'il faut pardonner? Parce qu'à la limite, hein, on a bien le droit d'être en colère, on a bien le droit, on a été blessé, on a été démoli quelquefois par la vie. Pourquoi pardonner et comment pardonner? Les offenses, c'est quoi? Des situations qui émanent des autres, la plupart du temps. On est blessé dans nos relations. Je viens juste de vous dire que dans l'Église, on cherche à avoir des relations différentes. Mais on peut être blessé aussi. Parce que de la même personne, il y a des moments où on va avoir une aide merveilleuse, un soutien formidable. Et cette personne, c'est un être humain qui, à un moment donné, paf, va plonger. Parce qu'elle est comme moi. Quelquefois, c'est moi. C'est moi. Moi qui vous parle, j'ai très bien pu avoir une parole malheureuse, une attitude malheureuse, quelque chose qui a fait mal. Alors des fois on s'en rend compte, des fois on s'en rend même pas compte. Les offenses, s'il y a offense, ça veut dire qu'il y a relation. Sinon, on vit en ermite. Et Dieu nous a pas dit de vivre en ermite. Vous vous rappelez? Donc les offenses sont pas des situations créées par Satan. De temps en temps, il donne un petit coup de pouce, hein, histoire de, hein, d'attiser un peu le bazar. Mais quelquefois, il n'est même pas obligé. Il n'est pas obligé. Qu'est-ce que nous dit la parole? Le cœur de l'homme est tortueux, plus que toute autre chose. La langue est un petit membre, mais elle enflammerait même le feu de l'enfer. Vous n'avez qu'à voir. On peut, par la même bouche, bénir ses frères et sœurs, chanter la gloire de Dieu. Et on peut dire des horreurs. Vous êtes sur la terre et pas encore au ciel. Et Dieu va vous faire grandir ici et maintenant. Pour après. C'est notre objectif. Tout ce qui va nous permettre de grandir, on va complètement le vivre après. Donc l'offense peut être intentionnelle, de temps en temps elle est intentionnelle, hein, les gens, oui, non, si, et parfois non. En tout cas, les dégâts que ça fait, ça prend quelquefois, et moi je l'ai vérifié dans ma famille, des années pour recoller les morceaux, des années. Parfois une vie sans pardon, quel malheur, une vie sans pardon. Tout à l'heure, je vous ai cité des situations, hein, d'épreuves, où il y avait de l'offense aussi. Si tu es malade, c'est parce que Honnêtement, est-ce qu'on est Dieu pour faire les questions et les réponses? Est-ce qu'on est Dieu? Moi, je me garderais bien d'un tel jugement. La personne souffre de sa maladie, en plus on en rajoute. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe ou s'il se tient debout, c'est l'affaire de son maître. C'est pas ton affaire. C'est pas ça que Dieu attend de toi. Et ça va pas l'aider à se relever si tu lui mets la tête sous l'eau, histoire qu'il sente bien sa misère. Et dans tout ça, pardonner. Parce que bon, dans notre vie aussi, on a ces situations-là. Pardonner, c'est quoi? C'est donner par-dessus. Au lieu d'en rajouter une louche pour enfoncer, on va en rajouter une louche pour aider. Ça change les choses. Ça change les choses. Donner pour passer au-dessus de la souffrance. Passer au-dessus de la souffrance qu'on m'a infligée. Passer au-dessus de l'humiliation qu'on m'a infligée. Qu'on a infligée à mes proches. Quelquefois, c'est pire. Quand on touche à nos proches, ça fait mal. Est-ce que c'est facile de pardonner? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est possible? Sans l'aide de Dieu? Sûrement pas. Sûrement pas. Est-ce que c'est une obligation de pardonner? Tu me dirais quoi? Moi, je dirais oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Parce que Matthieu 18, verset 18, nous dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Mais Jésus dit aussi à Pierre qui lui pose la question « Combien de fois je dois pardonner à mon frère qui n'arrête pas ?» 7 fois. Pas 7 fois. 70 fois 7 fois. Ça commence à faire pas mal. Matthieu 6 aussi nous dit, au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Seigneur, c'est dur comme parole ça. Tu me dis que je suis libre de pardonner, mais tu me dis que tu ne me pardonnes pas. Si moi je ne pardonne pas à l'autre, alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais pardonner avec un cœur partagé, à moitié, un petit peu, parce qu'il faut. Rappelez-vous, au départ, on a dit, c'est pas du parce qu'il faut. C'est parce que ça va te construire. C'est parce que c'est bon pour ta vie. C'est parce que non seulement le Seigneur cherche ce qui est bon, mais il cherche ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Il cherche ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce que nous dit Jésus pour qu'on comprenne pourquoi Dieu nous demande avec insistance de pardonner? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, parce que c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Et il nous dit aussi le second commandement, quand on lui pose la question de comment il faut respecter les commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand Jésus dit « Voici le commandement qui est semblable au premier », vous vous rappelez du premier ?« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire quoi en substance? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et la Bible nous le dit aussi, si tu n'aimes pas ton frère que tu croises tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable d'aimer celui qui a été fait à l'image de Dieu. Ah oui, mais attends, celui-là, il a été fait à l'image de Dieu, mais attends, il a bien changé, hein, parce que tu vois pas un peu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il a fait à mes proches. Le Seigneur dit, si je veux toucher son cœur, si je veux pouvoir le sauver comme je t'ai sauvé toi, il y a un chemin à prendre qui n'est pas un chemin facile. C'est le chemin du pardon. Et quelquefois, croyez-moi, ça nous coûte. C'est pas un truc comme ça qu'on fait parce qu'il faut. Si vous le faites parce qu'il faut, faites-le pas. Faites-le pour quelle raison ? Parce que je veux ressembler à celui que j'aime. Parce que je veux ressembler à Jésus. Parce qu'il me l'a dit. Parce qu'il m'a dit que c'est le meilleur chemin. Parce qu'il m'a dit que je peux pas aimer l'Éternel si j'aime pas mon frère. C'est pas possible, ça tient pas la route. Parce que Dieu veut pas être séparé de ses créatures. Même celles qui franchement, sont à des années-lumière de sa volonté. Et dans ma vie, je l'ai partagé à Jean-Luc, une personne qui m'a fait autant de mal qu'il est possible d'en faire. Autant qu'il est possible d'en faire. En termes d'humiliation, de mépris, de tricherie, quelque chose de très, très, très dur. Et pendant des années, parce que ça m'a pris des années, j'ai dit « Seigneur, je veux pardonner ». Et les choses revenaient comme un aiguillon, avec des détails. Ça m'a pris très longtemps. J'ai dit « Seigneur, je laisse tomber ». De toute façon, j'y arrive pas. Alors pourquoi, hein? J'arrive pas à pardonner. Donc je laisse tomber. Et puis c'est passé comme ça. Et cette personne est décédée. Cette personne est morte. Et là, clairement, le Seigneur m'a dit « Maintenant, tu fais quoi ? Maintenant, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Vous vous rappelez ? Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je t'oblige pas. C'est pas une injonction, c'est pas une obligation. Je te demande de te positionner. » J'ai dit « Seigneur, qui je suis ? Pour retenir ma rancœur, même au-delà de la vie, qui je suis ? Je suis une créature rachetée comme les autres. » J'ai dit « Seigneur, que ta volonté soit faite. Ta volonté, pas la mienne. Ta volonté, pas la mienne. » Parce qu'en nous, on n'a pas ça. Pensez pas que le pardon, c'est facile. Pensez pas que vous avez tout l'équipement en vous-même, de vous-même, pour pardonner, c'est pas vrai. Mais si vous le demandez au Seigneur avec un cœur sincère, si vous le demandez au Seigneur avec un cœur sincère, il vous le donnera. Il vous le donnera. Parce qu'il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire que de lier quelqu'un pour l'éternité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu en doutes, regarde à Jésus. Jésus sur une croix, Dieu créateur, Dieu créateur. En un instant, il avait desséché un figuier. S'il avait dit à son père, ça suffit, c'est assez, j'en ai assez de leur mépris, j'en ai assez de leurs insultes. Il n'a pas dit ça. Il a dit, père, pardonne-leur. Est-ce qu'on va mépriser ce que ça lui a coûté ? Est-ce qu'on va mépriser ce que ça lui a coûté ? J'ai raison d'être en colère dans cette situation. Tu vois pas un peu, j'ai raison d'être en colère. Est-ce que tu vas mépriser ce que ça lui a coûté ? Tu as beaucoup souffert. Les uns et les autres ici, chacun, vous avez votre vie, vous avez votre jardin secret, il y a des choses que vous partagez avec une personne privilégiée, et c'est bien votre droit, sentez-vous respecté. Mais vous avez aussi vos souffrances. Vous avez aussi des périodes de votre vie où il y a eu de l'humiliation, du mépris, de l'injustice. Tu as raison d'être en colère. La Bible dit, mais ne te couche pas sur ta colère. Ne te couche pas sur ta colère. Pourquoi, à votre avis ? Parce que tu risquerais de t'attacher plus à cette colère qu'à moi. Rappelez-vous, ressembler à Christ. Donne-moi ta colère. Donne-moi ton offense. Pourquoi ? Parce que tu peux rien en faire. Tu peux rien en faire. C'est pas constructif, ni pour toi, ni pour celui qui est l'objet de ta colère. Tu peux rien faire avec. Et elle peut te faire beaucoup plus de mal que tu ne penses. C'est un poison puissant qui ruine les relations dans la vie, dans le travail, dans les familles, dans l'église parfois. Donne-moi ce qui te blesse. Autorise-moi à penser tes blessures. Je t'obligerai jamais. Ce que je veux, c'est le meilleur pour toi, le meilleur. pas seulement ce qui est bien, le meilleur. C'est très exigeant. Je peux te faire grandir. Je peux te rapprocher de moi, même par l'offense que tu as subie. Choisis qui tu veux aimer. Ton amour-propre blessé, ta souffrance qui tourne en boucle et qui te bouffe, ça ronge la souffrance. Ou tu me choisis moi. Je peux te faire grandir aussi de cette façon-là. Et comme Joseph, vous vous souvenez de Joseph dans l'Ancien Testament, tu diras un jour, c'est dans Genèse 50 au verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et quand Dieu te demande de pardonner, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour sauver la vie de quelqu'un. Quand Dieu te demande de pardonner, c'est pour sauver la vie de quelqu'un. L'enjeu, il est costaud. Donc je vous laisse sur cette question. Tribulation. Dieu est là. Il n'a pas dit qu'on était au paradis. On est ici et maintenant sur terre. Offense. Dieu est là. Tentation. Dieu est là. Il n'a pas dit qu'il voulait que ce soit dur. Il a dit que ça allait être dur. Puisque pour Jésus, lui qui n'a pas épargné même son fils, ça a été dur. Ça sera dur. Mais vers qui tu vas tourner ton regard? Vers qui tu vas focaliser dans la vie? Sur ce qui est dur? Sur ce que tu n'arrives pas à gérer? Sur ce avec quoi tu ne sais pas quoi faire? Ou tu vas focaliser ton regard sur lui? Ça fait toute la différence. Et je vous laisse donc sur cette question. Et si c'était une question de survie? Et si c'était une question de survie? Voilà. Donc il y a plein de questions derrière tout ça. Je vous laisse y répondre tout seul, hein, vous doutez bien.